Le journal est présenté par Ezequiel Fernandez.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, le sénateur MoDem Michel Mercier renonce à siéger au Conseil constitutionnel, rattrapé à son tour par des soupçons d'emplois familiaux fictifs. Une affaire qui a émergé il y a moins d'une semaine, nous dira Antoine Marette. Cédric Herrou, condamné à de la prison avec sursis pour avoir aidé des migrants dans la vallée de la Roya, à la frontière franco-italienne, c'est la France qui devrait être condamnée, réagit José Bové, le député européen écologiste, vous l'entendrez dans ce journal. Deux scrutins importants aujourd'hui sur le continent africain. Les élections générales du Kenya, elles se sont déroulées dans de bonnes conditions. La phase critique a toutefois démarré avec le dépouillement, nous dira Bruno Meyerfeld depuis Nairobi. Et puis en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma échappe une fois de plus à une motion de défiance. Le vote à bulletin secret n'a pas fait exploser la majorité du parti au pouvoir, l'ANC. Nous retrouverons Lisa Fabian à Johannesburg. Le chantier de moralisation de la vie publique fait donc une nouvelle victime. Un autre élu du MoDem, le sénateur du Rhône, Michel Mercier, renonce en effet à son fauteuil au Conseil constitutionnel. « Je considère, écrit-il, que je ne pourrai pas siéger avec la sérénité nécessaire. » Michel Mercier est visé par une enquête préliminaire sur des emplois d'assistante parlementaire confiée à ses filles. Une décision qui tombe, Antoine Marette, moins d'une semaine après l'éclatement de l'affaire.
Une fois de plus, c'est un article du Canard enchaîné qui a déclenché cette affaire. Mercredi dernier, on apprend dans l'hebdomadaire que le sénateur MoDem du Rhône a recruté ses deux filles comme assistantes parlementaires. L'une entre 2003 et 2012, l'autre entre 2012 et 2014. Ça n'est pas illégal, ça va le devenir avec la loi de moralisation de la vie publique. Ce qui pourrait poser problème en revanche, c'est la nature du travail effectué par ces filles. Ont-elles réellement travaillé ou s'agit-il d'emplois fictifs ? Le Canard se pose la question, aussitôt suivi de la justice. Le jour même, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Et hasard du calendrier, quasiment au même moment, Michel Mercier est entendu par la commission des lois du Sénat en vue de la validation de sa nomination au Conseil constitutionnel proposée par le président Gérard Larcher. À l'issue de cette audition, les sénateurs se prononcent pour par 22 voix contre 7. Réaction immédiate du Conseil constitutionnel, les sages ont pour obligation générale de s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. On a fait plus accueillant. La position de Michel Mercier devient rapidement intenable, d'où ce renoncement. Il devrait être entendu dans les 15 jours par les enquêteurs. Trois hypothèses alors, ils classent l'affaire, ils font une citation directe au tribunal où ils ouvrent une information judiciaire. Dans ce cas, Michel Mercier pourra éventuellement être placé sous le statut de témoin assisté ou de mise en examen.
Les précisions d'Antoine Marette pour France Culture. Près de 17 millions d'euros, 16 millions 7, c'est le montant des dépenses de campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, selon les comptes déposés et publiés au journal officiel, assez loin d'ailleurs du plafond autorisé par la loi qui s'élève à 22,5 millions d'euros pour un candidat qui accède au second tour. Emmanuel Macron, quoi qu'il en soit, a été le plus dépensier, devant Benoît Hamon, 15 millions d'euros, François Fillon, 13,7 millions et Marine Le Pen 12,5 et Jean-Luc Mélenchon 10,7 millions. Le plus économe a été le Béarnais, mes chers compatriotes, Jean Lassalle, à peine 257 000 euros. La commission des comptes de campagne a 5 mois pour vérifier la conformité des sommes déclarées. Condamné mais déterminé à poursuivre son combat, Cédric Herrou en appel, cet agriculteur de la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes, a donc été condamné et écopé de 4 mois de prison avec sursis pour aide à l'immigration clandestine. Il estime plus que jamais qu'il fait le travail de l'État défaillant sur la crise migratoire. Point de vue partagé par de nombreuses associations qui dénoncent la criminalisation de la solidarité et aussi par José Bové, député européen écologiste qui lui aussi a eu souvent maille à partir avec la justice.
C'est pas Cédric Herrou aujourd'hui qui devrait être condamné, mais c'est bien la France par l'Union européenne pour manquement au droit européen sur l'accueil. On ne peut pas avoir un discours en disant plus personne ne doit être à la rue et d'un autre côté avoir des actes d'État qui méprisent le droit d'accueil, qui méprisent la fraternité qui est dans notre devise. Ce sont eux qui font les fiers et qui disent qu'il ne faut plus voir un immigré dans la rue.
José Bové, interrogé par Ludovic Piétenu. Autre réaction, celle du président Les Républicains du département des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti. La justice dit enfin clairement que M. Herrou est un délinquant qui instrumentalise la détresse humaine. Fin de citation. Cédric Herrou qui a l'intention de se pourvoir en cassation. Mauvais, les chiffres du commerce extérieur rendus publics ce matin par les douanes. Un déficit de 34 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de cette année. C'est 11 milliards de plus que l'an dernier pour la même période. Le niveau des exportations est toujours largement insuffisant. Dans les prochains mois, il va peut-être augmenter, mais dans le même temps, celui des importations également, ce qui fait que le problème risque de demeurer intact. Les opérations de dépouillement ont commencé ce soir au Kenya, où se sont déroulées aujourd'hui les élections générales. Près de 20 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner leur président, mais aussi leurs députés, sénateurs, les gouverneurs et aussi les élus locaux. Le scrutin présidentiel s'annonce serré entre le sortant Uhuru Kenyatta et son opposant Raila Odinga. Les électeurs se sont déplacés en nombre et le scrutin s'est déroulé globalement dans le calme. Mais c'est à partir de maintenant que le pays entre dans une phase assez critique. Correspondance à Nairobi, signé Bruno Meyerfeld.
Jusqu'ici, tout va bien. Les Kenyans se sont rendus en masse aux urnes toute la journée. Devant les bureaux de vote, il y avait des files invraisemblables s'étirant sur plusieurs centaines de mètres. Mais malgré l'attente, parfois 6 ou 7 heures, personne au Kenya n'a renoncé. À Nairobi, sur la côte, dans les petits villages des Maasai et jusqu'au camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand du monde, on s'est accroché et on a voté. Une belle image de la démocratie kenyane, probablement aujourd'hui à son meilleur. Le tout certes a entraîné quelques scènes de chaos, quelques blessés et quelques couacs. 15 bureaux de vote n'ont pas ouvert leurs portes dans le nord à cause d'inondations. On s'est embrouillé aussi parfois entre les 6 urnes colorées et autant de bulletins de vote. Il y a eu enfin quelques tentatives de fraude vite écartées, mais globalement la technologie utilisée, biométrique et très avancée, a tenu le coup. Alors maintenant, le scrutin entre dans sa phase la plus dangereuse, celle du décompte des voix, là où toutes les fraudes sont possibles, une séquence très périlleuse et qui pourrait prendre plusieurs jours.
Rappelons qu'il y a 10 ans de cela, en 2007, des violences post-électorales sur fond d'affrontements ethniques avaient coûté la vie à 1200 personnes. Les résultats des élections générales au Kenya sont attendus en principe demain, mercredi. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma survit à une nouvelle motion de défiance. C'est la quatrième depuis 2015. Cet après-midi, elle a été votée à bulletin secret. C'est une grande première. L'opposition espérait, par ce mode de scrutin, rallier une partie des députés de l'ANC au pouvoir et faire tomber Jacob Zuma et son gouvernement. Peine perdue, la motion de défiance a recueilli 198 voix contre, 177 pour et 9 abstentions. Et c'est donc une victoire indiscutable pour le président englué dans des scandales politico-financiers. À Johannesburg, les précisions de Lisa Fabian.
La séance parlementaire était considérée comme l'une des plus importantes depuis l'avènement de la démocratie sud-africaine. L'opposition avait largement mobilisé autour de cet événement historique, avec l'espoir de faire basculer le vote d'une partie des députés du Congrès national africain pour pousser Jacob Zuma vers la sortie. Une gageure puisque l'ANC possède une très vaste majorité au Parlement. Finalement, 177 députés ont voté en faveur de cette motion de défiance, mais 198 l'ont rejeté. Un résultat plus serré que prévu qui signe la mort de l'ANC, selon le chef de l'opposition sud-africaine. Le parti a montré qu'il est en guerre contre lui-même, a-t-il déclaré à l'issue du vote. Une fois encore, l'ANC a pris le risque de soutenir un président jugé très corrompu en mettant en avant l'intérêt supérieur de l'organisation. Une stratégie à court terme qui permettra peut-être au parti majoritaire de conserver un semblant d'unité en vue de sa conférence électorale qui aura lieu au mois de décembre. À ce moment-là, l'ANC élira son nouveau président et pourra éventuellement négocier une sortie vers le haut de Jacob Zuma.
Et ajoutons qu'en décembre prochain, l'ANC doit élire son nouveau leader, celui qui remplacera justement Jacob Zuma à la tête du parti. Isoler la Corée du Nord, c'est le message asséné aujourd'hui par Rex Tillerson à Bangkok. Première visite d'un secrétaire d'État américain depuis le coup d'État de 2014 en Thaïlande. Les États-Unis aimeraient bien que s'arrêtent les relations commerciales avec Pyongyang. Bangkok est en effet le troisième plus important partenaire commercial de la Corée du Nord après Pékin et Séoul. Deux disparitions dans le monde de la culture aujourd'hui, celle de Gonzague Saint-Brie. On vous en a parlé dans nos précédentes éditions. Gonzague Saint-Brie, écrivain et historien, mort dans un accident de la circulation hier soir en Normandie. Il avait 69 ans. De la plume de l'écrivain aux plumes d'autruche et aux strass avec la disparition d'Hélène Martini, dont le nom ne vous est sans doute pas familier, surnommée l'impératrice de la nuit parisienne. Elle est décédée à l'âge de 92 ans dans ses beaux jours. Elle dirigeait 4 théâtres, les Bouffes Parisiens, Mogador, la Comédie de Paris et surtout les Folies Bergères, qu'elle a dirigé pendant la bagatelle de 37 années. La tendance météo pour demain, le temps restera pluvieux voire orageux dans la moitié ouest, plus calme avec des éclaircies à l'est, ensoleillé au sud-est. Le mercure n'ira pas au-dessus de 18 à 24 degrés, sauf autour de la Méditerranée, où il grimpera entre 28 et 32 degrés. Fin de ce journal, préparé avec Brice Garcia.